Bonjour, on va commencer. Alors, nous sommes aujourd'hui à la deuxième leçon, donc la leçon inaugurale, qui a vraiment donné une vue d'ensemble. La deuxième leçon qui a couvert les grandes tendances en innovation et recherche biomédicale. Et cette leçon et quelques leçons suivantes vont être plutôt dirigées sur l'analyse et la stratégie qui sous-tend en fait toutes les activités d'innovation. Donc, dans le but de cette chaire d'innovation technologique, aujourd'hui, nous allons parler des approches à l'échelle globale de l'innovation et de ses résultats. Et donc, discuter avec vous un peu de l'ensemble de l'évolution de ce qu'on peut mesurer, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'innovation sans être capable de la mesurer. Et donc, c'est un exercice difficile, mais une des choses que je voulais partager avec vous, ce sont les analyses que nous faisons de manière régulière, tous les 3 ans aux États-Unis, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble, non seulement de l'état de l'innovation, mais aussi de la distribution et des changements à l'échelle globale. Donc, la première partie de la conférence aujourd'hui va être basée justement sur une comparaison dans ce qu'on peut mesurer des performances de l'innovation à l'échelle internationale. Et c'est un problème qui est un problème d'analyse très difficile à résoudre, mais en fait, on peut le simplifier. Parce que fondamentalement, vous pouvez le séparer en ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire ce qu'on met dans le système d'innovation, les outputs, c'est-à-dire on fait entrer des ressources, et on essaie de mesurer des mesures intermédiaires, et puis, bien sûr, ce qu'on appelle le outcome, c'est-à-dire le but final, ce qui est, à la fin, tangible, donc, et qui arrive, l'innovation qui a été maintenant diffusée, commercialisée, réalisée sur le terrain, qui a fourni, en fait, son but, c'est-à-dire de subvenir à des besoins qui n'étaient pas satisfaits avant. Donc, cette analyse, en général, toutes les analyses que vous voyez sur l'innovation, en fait, ont ce genre de pattern, de manière d'approcher les choses. On mesure donc les fonctions, ce qu'on met. Donc, qu'est-ce qu'on met ? On met des ressources. Donc, il faut avoir une idée des ressources qui sont investies. En général, c'est à ça que servent les budgets, donc savoir exactement quelles sont les dépenses. Deuxièmement, on y met un capital humain. Donc, il faut avoir une manière de mesurer l'insertion de capital humain dans les phénomènes d'innovation à l'échelle globale. Ensuite, on mesure des outputs directs, des publications, par exemple, les brevets. Et ensuite, on essaie de mesurer des mesures tangibles de l'autre côté où il y a effectivement une réalisation sur le marché et la valeur de ces réalisations. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner une vue d'ensemble du point de vue stratégique de l'innovation à l'échelle globale. Donc, c'est une mesure, en fait, qui vient des études très très poussées que nous faisons au NIH sur la recherche biomédicale, au NSF, la National Science Foundation, pour toutes les recherches non biomédicales, qui sont ensuite intégrées tous les 3 ans au niveau de ce qu'on appelle le National Science Board, qui est le comité scientifique national. Et on essaye d'avoir des indicateurs donc, sur la science et l'engineering en même temps, bien sûr, pour avoir une idée sur la découverte fondamentale et la recherche appliquée, bien sûr, et sa traduction. Donc, première question, quelle est l'insertion de ressources ? Alors, vous voyez qu'à l'échelle globale, il y a eu une augmentation de l'insertion des ressources, à peu près 500 milliards de dollars, et on voit bien une croissance à peu près... C'est à peu près du 6-7% globalement, ou un peu moins, 5% peut-être, à peu près 1,1 trillion de dollars en 2007. C'est à peu près à 1,2 aujourd'hui. Donc ça vous donne une idée. 1,2 trillion de dollars, c'est à peu près le tiers de l'économie française, hein, pour vous donner une idée. Voilà à peu près l'investissement innovateur en recherche et développement à travers le monde. Comment il est distribué ? Alors, vous voyez, les États-Unis sont passés de 200 à peu près 340. L'Union européenne est passée de 100, un peu moins de 150 à 260. Et il y a eu une inflexion très nette en Asie qui suivait la même courbe jusqu'aux années 98-99, une accélération au début des années 99-2002 et ensuite un autre taux d'accélération. Donc une phase de parallèle, une phase d'accélération modérée, une phase d'accélération rapide. Et vous voyez donc l'Asie qui comprend bien sûr, quand on parle d'Asie, on parle de Chine, d'Inde, Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, et bien sûr les EU, c'est les 27 États de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de l'évolution. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir non pas la quantité absolue investie, mais de savoir en pourcentage du produit intérieur brut quel est en fait l'investissement et comment il évolue. Alors vous voyez par exemple que le Japon est passé de 2,8% de son produit intérieur brut dans les années 96 à pratiquement 3,4%. C'est un des plus hauts au monde. Seul de plus petits pays, Israël est arrivé à 4%, la Finlande à 3,8%, la Suède qui essaie de rattraper aussi. Il y a de petits pays qui sont à la Suisse qui arrivent à des taux comme ça, mais une grande économie à 3,4%, c'est assez remarquable. Et vous voyez ici la Corée du Sud. Alors la Corée du Sud qui avait commencé à désinvestir, plateau et réaugmentation de son investissement en pourcent. C'est vraiment remarquable ce qui s'est passé. Et ça explique en partie cette croissance accélérée qu'on voit à partir des années 2002-2003 dans le continent, dans la région asiatique. L'Union européenne, les États-Unis, c'est pratiquement la même chose, à 2,8. L'Union européenne, c'est 1,9. Et bien sûr, le grand changement qui explique aussi l'accélération en Asie, c'est que la Chine passe de 0,6 à 1,4 et que le plan quinquennal d'investissement innovateur ou d'innovation recherche et développement en Chine va grandir à 20% par an dans les 5 prochaines années. Donc 20% par an. Si l'économie grandit à peu près à un taux normal, donc vous voyez que ça va pratiquement rattraper les États-Unis dans les 5-6 années qui viennent en pourcentage du produit intérieur brut. La Chine aujourd'hui est passée en deuxième position vis-à-vis du Japon au point de vue de la taille de l'économie à 3,5-4 trilliards de dollars. Les États-Unis, c'est à peu près 14. Donc vous voyez à peu près la relation. Donc égalité du point de vue pourcentage du produit intérieur brut. Bien sûr, en valeur absolue, c'est différent, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Voilà les taux de croissance donc, de ces insertions de ressources. Toute société est obligée d'investir. Et ça, cet investissement, ce n'est pas seulement l'investissement public, c'est l'investissement public et privé, qui est beaucoup plus la proportion d'investissement public est moins grande aux États-Unis et en Europe, ou même au Japon, qu'elle n'est maintenant en Chine. 80% des investissements chinois sont des investissements publics. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui investit. Tandis que quand on regarde la proportion ici aux États-Unis, la moitié des investissements sont des investissements publics, la moitié des investissements sont des investissements privés, c'est-à-dire les IBM, Intel, toutes les corporations privées. Et vous voyez, le taux de croissance donc, des États-Unis entre cette période de temps est à peu près à 5,2%, 5% en Europe, 5% au Japon, et les taux de croissance élevés se trouvent pratiquement tous en Asie. Donc, un renversement des investissements qui est réel, en termes réels, à un taux de croissance de plus en plus élevé, à peu près 23%, comme je l'avais dit, en Chine, et vous voyez Singapour, la Malaisie, et ainsi de suite. Donc, l'endroit, le centre de gravité des investissements en recherche et développement est en train de bouger. On voit bien sûr que la partie nord-américaine a diminué, la partie européenne a diminué, la partie Asie-Pacifique a augmenté, le reste du monde est à peu près stable. L'exception, c'est le Brésil. Le Brésil, où il y a vraiment un investissement, je n'ai pas le détail sur le Brésil, mais c'est ça, c'est le pays le plus significatif en dehors de cette zone. Donc, nous voyons l'insertion des ressources. Essayons de voir maintenant le capital humain qui est dédié, en fait, dédicacé, spécialisé sur le R&D. Donc, voyons les tendances là-dedans. Alors, si vous voyez à l'échelle globale, entre 1980 et 2000, le nombre total de gens capables de performer des fonctions à un haut niveau de recherche et développement et d'innovation, dans tous les pays, donc les gens qui sont éduqués suffisamment pour pouvoir justement exécuter de tels programmes, on passe de 73 millions du point de vue global à 194 millions. Donc sur les 6 milliards, 6-7 milliards d'individus, on a à peu près 200 millions d'individus actuellement capables d'effectuer de l'innovation technologique. Et la distribution change avec une diminution aux États-Unis, 27% du total, et une grande croissance de la Chine, 5% en 80, 11% d'une portion plus grande en l'an 2000, l'Inde, 8% contre 4%, réduction est très importante en Russie, 13 à 7, au Japon, 10 à 6, et stabilité pratiquement entre France, Mexico, vous voyez le Mexico qui a augmenté, qui a doublé, mais le reste c'est à peu près la même chose, l'United Kingdom qui a perdu, la France qui est restée stable, le Brésil ici encore, stable mais sur une plus grande population. Donc, augmentation à peu près proportionnelle pour la majorité du pays et disproportionnée pour la Chine, l'Inde en augmentation, la Russie et le Japon en diminution. Quand on regarde, bien sûr, les gens qui ont été éduqués au niveau tertiaire, donc qui sont capables d'avoir des activités dans l'échelle de Maslow que j'avais donnée dans la leçon inaugurale, ils sont capables d'avoir des activités de créativité, de créer des... On veut maintenant se concentrer sur l'innovation technologique. Donc j'ai retiré les statistiques que nous avions sur les sciences naturelles. Donc pour les individus en nombre absolu, pas en pourcentage, en nombre absolu, qui ont des degrés, c'est-à-dire des diplômes dans les sciences naturelles et engineering. Alors ce que l'on définit par sciences naturelles, c'est les sciences physiques, les sciences biologiques, les sciences de la Terre, atmosphériques, l'océan, l'agriculture, sciences des computers et les mathématiques. C'est ce qu'on appelle les sciences naturelles. Alors vous voyez le chiffre total. En 1998, ça c'est les États-Unis, à peu près 200 000 travailleurs dans les sciences naturelles, enfin formés dans les sciences naturelles, un chiffre qui a été à peu près stable, il y a à peu près 240 000. Bien sûr, stabilité pratiquement dans le monde. Alors ça, c'est le Japon, ça, c'est la Corée du Sud, ça, c'est le Royaume-Uni. On ne peut pas avoir de statistiques EU globales pour ce genre de truc. Donc je prends des pays représentatifs, l'Allemagne. Et la grande différence, c'est la Chine. Vous voyez ici encore ce que je vous avais dit, une petite augmentation à un taux assez... qui aurait été... Si on avait pris les taux de croissance des années 98-2000, on serait à peu près là. Il y a eu une accélération absolument remarquable entre 2001-2002 qui est liée à un changement de politique d'investissement dans l'innovation en Chine et qui fait que depuis... ils ont pratiquement 800 000 personnes qui sont qualifiées, si vous voulez, du point de vue diplôme pour réaliser de l'innovation technologique. Quand on voit non seulement les gens qui ont un diplôme, quel qu'il soit, licence, mais qu'on se concentre maintenant sur les diplômes à niveau de doctorat, donc de PhD, postdoc, qui vont devenir des postdocs, alors là, on voit une autre évolution, c'est-à-dire que si vous voyez encore, ça c'est la Corée du Sud, ça passe d'à peu près 3 4 000 à 6 000 par an, les États-Unis se maintiennent à peu près à 20 000, ça c'est dans les sciences naturelles, et puis ça a augmenté à 25 000. Quand on voit les États-Unis, on voit que la population qui consiste en doctorat aux États-Unis se compose de deux populations. Une population ici, c'est les citoyens US, qui fait à peu près 10 à 12 000. Cette ligne bleue, ce sont les citoyens non US qui reçoivent des diplômes aux États-Unis, des immigrants ou des gens qui ont leur diplôme et retournent. Donc le total maintenant devient plus grand en fonction. Il y a plus de doctorats donnés à des non-américains qu'aux Américains. Et la grande question, bien sûr, si on compare ce chiffre ici, on dit bon, c'est quoi le pourcentage de rétention ? C'est-à-dire combien reste aux États-Unis, combien retourne en dehors des États-Unis. Et bien sûr, cette ligne remarquable, enfin vraiment l'élément marquant, c'est la croissance en Chine. Bien sûr, il y a plusieurs analyses. Quand on fait une analyse de capital humain, on ne peut pas faire une analyse de capital humain seulement sur les diplômes. Donc il faudrait avoir aussi un sens plus profond. Il y a d'autres études, justement, sur les capacités, les qualités productives des populations. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans certains domaines, effectivement, il y a des diplômes d'ingénieurat, par exemple, qui sont donnés en grande quantité en Chine et en Inde, mais qui n'ont pas quand même les mêmes indicateurs de qualité encore. Donc ça va prendre un temps avant que la qualité rattrape. Donc il y a des études qui ont été faites par l'université Duke là-dessus, justement, qui montrent qu'il y a peut-être une inflation de diplômes avec de grandes universités qui produisent beaucoup de diplômes, mais pas nécessairement les compétences qui vont avec ces diplômes. Mais ça, c'est toujours un épiphénomène en début de croissance. Mais ce qui se passe, c'est que quand on voit le ranking des universités mondiales, on commence à voir l'émergence des universités asiatiques et des universités des pays en voie de développement qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. Donc, changement. Quel est le pool maintenant de chercheurs qui sont vraiment dans la recherche, pas seulement qui sont diplômés ou qui ont des doctorats, mais qui sont dans la recherche? Quel est ce pool à l'échelle mondiale? Et vous voyez à peu près que c'est-à-dire, c'est vraiment le taux combiné, parce que ce que je vous ai montré avant, c'était le nombre de diplômes donnés par an. Hein, la diapositive précédente, c'est par an. Maintenant, ça, c'est le total cumulatif. Or, si vous voyez le nombre de gens qui sont, le nombre d'individus en recherche, alors les États-Unis, c'est à peu près 1 400 000. L'Union européenne, à peu près le même chiffre, 1 200 300, c'est à peu près au même niveau. Le Japon, 750, la Russie, ça diminue, la Corée du Sud, vers 240 000. Vous voyez Taïwan et Singapour, des pays plus petits, mais encore une fois, le rattrapage de la Chine, avec à peu près 1 400 000 chercheurs. Quelle qualité, quel output, je ne sais pas, mais c'est ça l'input. C'est-à-dire, c'est ça l'insertion de ressources. Et donc, vous voyez, enfin, le chiffre à travers le monde maintenant, hein. Donc ça, c'est vraiment un chiffre global, mondial. On a 1,4 million de chercheurs aux États-Unis, l'Union européenne et la Chine, les trois grands, quoi. Et puis, vous voyez, 700 000 au Japon, 500 000 en Russie. Ça, c'est vraiment les top 10, comme on dit, avec le Brésil qui est en train d'augmenter. Le Brésil est à peu près à 80 à 100 000. Donc, un peu plus bas plus bas que la Corée, mais en pleine croissance du point de vue recherche. Alors, maintenant que nous avons vu quels sont les inputs, parlons des outputs, pour avoir une vue d'ensemble. Parce que je pense que toute cette série de cours doit se baser sur une analyse globale au début. Et une fois qu'on l'a comprise, on pourra discuter en fait, des politiques, des stratégies différentes pour encourager justement cette innovation. Quels sont les outputs? Alors, bien sûr, on mesure les articles de journaux, parce qu'en science et en recherche, c'est une mesure tangible d'un output, dans toutes les régions, dans les articles de sciences et d'ingénierie, bien sûr. Alors, vous voyez l'évolution entre 1988 et 2008. Alors, bien sûr, les États-Unis sont restés à peu près stables, sont passés de 140 à 200 000, une petite décroissance récente entre les années 2006-2000, qui a continué, d'ailleurs. Et la même chose, alors, croissance extraordinaire dans l'Union européenne, avec même plus de papiers en sciences et ingénierie que les États-Unis, mais aussi des croissances. Et bien sûr, l'Asie, croissance remarquable, de 50 à 150 000. Et la Chine, qui fait partie, en fait, la Chine, la Corée, par contre, le Japon aussi, avec un ralentissement des productions scientifiques, de publications scientifiques par an. Quand on voit l'engineering, et je sépare les deux, parce que c'est important de séparer les deux dans notre esprit. Il ne faut pas mélanger science et engineering. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde l'ensemble de l'entreprise innovatrice, les sciences jouent un rôle fondamental dans l'innovation, c'est-à-dire la création d'idées, mais ce sont les sciences d'engineering qui arrivent à réaliser l'idée. Et alors, c'est la différence, par exemple, entre ce qu'on dit quand on a été sur la Lune, quelle est la différence entre un projet pour aller sur la Lune et un projet scientifique pour découvrir, par exemple, la base du cancer. Quelle est la différence? Ouais, la Lune, c'est un projet d'engineering. C'est-à-dire que la plupart des connaissances scientifiques sont déjà acquises. On connaissait l'astronomie, on connaissait la gravitation, la Lune, on voyait où elle était. Ce n'était pas mystérieux, les roquettes. Donc c'était un projet d'intégration de plusieurs sciences, d'arriver à réaliser un but très précis. Or, donc, les ingénieurs sont en fait les translateurs, hein, les traducteurs de la science qui arrivent à mettre ensemble des systèmes assez complexes. Mais bien sûr, ce n'est pas la même activité que la science. Donc il faut mesurer l'engineering de manière distinguée de la science. Il ne faut pas combiner les deux. Et il faut être très, très prudent de protéger en fait toutes ces activités d'engineering qui sont en général considérées comme deuxième classe du point de vue des scientifiques. On considère toujours l'ingénieur un peu comme un artisan. Ce n'est pas un vrai, Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale dans les politiques nationales de développement de sous-considérer l'engineering. Et vous allez voir en fait que ça joue un rôle énorme. Donc voilà les journaux d'engineering. Regardez ce qui se passe. Les États-Unis, à peu près plein. Regardez la croissance en Asie. Et je vous demande, ici en Europe aussi, surtout en Allemagne. Alors ici, je vous demande de vous rappeler de ça, parce que vous allez voir l'écho de ces changements dans le output économique. Dans quelques diapos, je vais vous montrer quelle est la valeur des exportations économiques, de la création économique. Et vous voyez qu'il y a une relation beaucoup plus forte entre les outputs engineering que les outputs science. Donc il y a une relation beaucoup plus directe du point de vue de public policy, c'est-à-dire de politique économique, entre les critères d'engineering et l'économie, plutôt qu'entre les critères science et l'économie. Ce qu'on voit souvent, par exemple, on le remarque surtout au Royaume-Uni, où il y a vraiment un disconnect, on en parlera plus tard, entre les investissements scientifiques, où ils sont excellents, c'est-à-dire que sur un dollar investi en Angleterre, on obtient plus de publications, de brevets et de découvertes qui sont récompensées par les prix Nobel que dans d'autres pays, y compris les États-Unis. C'est-à-dire vraiment le système au Royaume-Uni est très productif du point de vue scientifique vis-à-vis de la ressource qui est investi. Par contre, quand on voit la même chose et on dit, bon, quelle est la production du point de vue économique, on voit qu'il y a une perte. Par exemple, ils ont découvert dans mon domaine la résonance magnétique, ils étaient leaders dans la résonance magnétique, dans les scanners de thermodensitométrie. Maintenant, les grandes compagnies, c'est les compagnies Siemens, General Electric, Toshiba. Et en fait, moi, mon avis personnel, c'est qu'il y a un manque d'attention aux disciplines de l'engineering en Angleterre, qui fait que l'Angleterre, et c'est l'avis que j'ai donné au gouvernement anglais, quand on a fait l'analyse en fait, de ce problème, on s'est rendu compte que c'était un des problèmes. Bon, j'insiste sur ce point parce qu'il est important, et quand on voit l'évolution ici, donc vous vous rendez compte, bien sûr, même les articles en engineering augmentent de manière remarquable en Asie, et pas tellement aux États-Unis, et vous allez voir, le Japon, ça augmente, l'Asie, ça augmente, et la Chine augmente énormément. Et je vous demande de vous rappeler de cette diapositive quand on va la comparer à la production économique. Quand on voit le pourcentage investi, on se rend compte aussi qu'en pourcentage de tous les articles, donc quel est le rapport engineering et science, on voit que les États-Unis, l'Union européenne, c'est à peu près à 5-10%. Et regardez Singapour. Donc la proportion d'articles dans la production nationale singapourienne d'engineering et de science est de 25 à 75. En Chine, c'est de 16 à 84, donc. Et en Europe et aux États-Unis, c'est de 6 à 94. Ça vous donne une idée un peu du moteur d'innovation et de sa balance, en fait, dans chaque pays. Ce qui est remarquable aussi, c'est que quand on regarde l'information qu'on analyse dans les banques de données que nous avons, on remarque une chose qui est remarquable, c'est l'augmentation des collaborations internationales. Et comment on arrive à mesurer ça? C'est en voyant les auteurs de différents articles, soit en sciences, soit en engineering, et leur provenance. Et vous allez voir, il y a une augmentation remarquable du nombre d'auteurs qui ne sont pas de la même région. Donc si on voit un article, par exemple, qui est de France avec un collaborateur en dehors de l'Union européenne, on le cite comme un article de collaboration en dehors de la zone. Donc, s'il collabore avec un collaborateur US, on voit qu'en Europe, il y a eu une augmentation, une ouverture du système d'innovation qui n'est plus seulement national ni régional, mais qui devient international. La même chose aux États-Unis. Il y a de plus en plus de co-auteurs qui ne sont pas des États-Unis dans les articles qui viennent d'institutions américaines, que ce soit des co-auteurs asiatiques ou européens. On voit ça au Japon, ce qui est remarquable parce que le Japon n'avait pas cette tradition de collaboration en dehors du Japon. Par contre, on ne voit pas ça en Chine, ce qui est remarquable. Ça, c'est un point d'observation. Et en fait, on se rend compte que, et je vais vous montrer les informations, qu'il y a beaucoup de circulation interne dans les articles publiés, dans les publications chinoises, qui se réfèrent à elles-mêmes et qui collaborent entre elles, qui n'ont pas encore ouvert leur collaboration à l'échelle internationale comme le reste des pays. Donc on voit le trending, même en Inde, où le trending était positif, et pas du tout en Chine. Quelque chose de remarquable. Et ça veut dire quelque chose, en fait, quand on connaît un peu le système, et je vais vous montrer pourquoi ça se passe. C'est parce qu'en fait, en Chine, il y a vraiment deux systèmes d'innovation qui sont en train de se développer. Un système très, très compétitif, très encouragé, avec des universités de pointe, et un deuxième système derrière, avec beaucoup de masse, production de masse, où les articles sont des articles publiés dans des publications chinoises, avec des auteurs chinois, avec des reviewers chinois. Donc, une phase, si vous voulez, de séparation qui se passe, qu'on n'arrive pas à capturer du point de vue statistique, c'est-à-dire qu'on arrive à les capturer de manière indirecte, et justement ce fait que, malgré l'expansion, il n'y a pas eu une expansion des collaborations. Pas encore, mais elle va venir. Et donc, quels sont les nouveaux patterns de recherche? Alors, si on voit maintenant non seulement les publications et les co-auteurs, une manière de mesurer la collaboration, on peut voir aussi les citations. C'est-à-dire, citations, ce sont dans les références. Quand on cite un auteur en référence, on cite un auteur qui a, bien sûr, contribué quelque chose à votre compréhension du problème. Donc, on fait des analyses de citations assez poussées pour savoir, bon, si je suis aux États-Unis, combien de fois je cite quelqu'un en Europe, combien de fois je cite quelqu'un en Chine. Donc, on voit ici les citations dans les papiers US, hein, c'est-à-dire aux États-Unis, quand on voit les publications sciences et ingénierie, combien de fois on cite un auteur dans les références de l'Union européenne. Alors vous voyez que c'est en augmentation de 18 à 25% et plus, enfin non, à peu près 25%. On ne cite pas tellement le reste du monde, on cite l'Asie de plus en plus, on cite le Japon de manière égale, et bien sûr l'Asie, les 8, c'est-à-dire et la Chine, les citations dans les pays, dans les articles américains de travaux faits en Chine augmentent, mais encore dans les 2-3%. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe dans les citations maintenant ? Alors, à l'inverse, on peut faire l'observation inverse. Si on voit les journaux et les publications asiatiques, qu'est-ce qui se passe dans le pourcentage de citations qu'ils font d'auteurs aux États-Unis ? On voit une décroissance. De plus en plus, les auteurs asiatiques ne citent de moins en moins, si vous voulez, des articles qui viennent des États-Unis, les articles qui viennent du Japon. Par contre, ils citent également les articles de l'Union européenne. Et bien sûr, ils se citent entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de ce qu'on appelle les cross-citations, hein, de citations croisées dans l'Asie entre les publications. Là, il faudra avoir une analyse un peu plus fine parce que, encore une fois, on se demande si ce n'est pas une dichotomie, si vous voulez, dans le système d'innovation asiatique et chinois en particulier, où une population de scientifiques se cite entre eux et une, est beaucoup plus connectée internationalement. Cette analyse n'a pas été faite, je ne la connais pas. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, alors, on cite de moins en moins les États-Unis et l'Union européenne en Chine, et on cite de plus en plus l'Asie elle-même, vous voyez le changement, moins le Japon, et on cite surtout des travaux internes à l'intérieur de la Chine. Il y a une autre interprétation de ce phénomène, c'est que en fait, le moteur d'innovation en Chine est en train de commencer à circuler, et donc il y a une circulation interne de plus en plus vibrante, de plus en plus vitale, et c'est un bon signe. Ou alors, on a un niveau, c'est la deuxième interprétation, un niveau où vraiment les citations sont sont beaucoup plus internes parce que le système n'est pas encore connecté vraiment à la frontière des innovations technologiques. Donc, la partie, si vous voulez, du point de vue du pourcentage, c'est-à-dire de papier, on voit bien sûr que les États-Unis, quand on regarde, c'est-à-dire les papiers qui sont cités à 11 à 25% du temps, c'est toujours la même distribution, c'est-à-dire les papiers US sont plus cités que les papiers européens, plus cités que les papiers asiatiques, et que ce soit dans toutes les catégories de citation, c'est un peu le même pattern. C'est-à-dire qu'encore, on retrouve qu'il y a les papiers importants, les papiers qui sont cités le plus souvent parce qu'ils font la base de travaux subséquents, sont encore d'origine US et Europe, mais avec une croissance, bien sûr, en Asie. Maintenant, on peut voir les brevets. C'est une autre manière de mesurer, en fait, le output de l'innovation technologique. Et voilà la distribution des brevets. Elle est pratiquement stable. Parce que ça prend quand même quelques années. C'est-à-dire une fois qu'on a investi les ressources financières, une fois qu'on a développé le capital humain, ça prend 10 à 15 ans pour avoir une productivité en brevets qui soit équivalente. Donc vous ne voyez pas les tendances que je vous ai montrées, vous ne les voyez pas dans les brevets. Tout au moins pas encore. Et alors, dans les brevets aussi, il faut faire très attention parce qu'on a deux catégories de genres de brevets. On s'est rendu compte de ça dans les années 90-95. Comme au Japon, par exemple, ils avaient créé des systèmes de bonus qui dépendaient de la production des brevets. Donc, si vous étiez employé dans une boîte japonaise ou à l'université, on regardait le nombre de brevets auxquels vous avez appliqué comme une des conditions de promotion. Et donc, il y a eu une inflation dans les applications de brevets. Or, vous le savez, on peut faire un brevet, on peut se mettre d'accord maintenant, on peut faire un brevet cet après-midi. Enfin, ce n'est pas très difficile d'avoir une application, c'est-à-dire de faire un brevet. Mais quelle est la qualité de ce brevet? Donc, problème de mesure des qualités. Donc, quand on parle de brevets, on parle aussi d'une catégorie de brevets qui s'appelle High Value Patents, qui ont des brevets à haute valeur. Comment on les retrouve, ces brevets? C'est en fait en déterminant s'ils ont été appliqués dans la région européenne, c'est-à-dire, déposés en région européenne, asiatique et US. Pourquoi? Parce que quand on développe un brevet et qu'on veut le déposer, ça coûte cher. Or, ce qui est très clair, c'est que quand un brevet n'est pas considéré de haute valeur, le chercheur japonais le dépose au Japon, mais ne le dépose pas en Europe ou aux US. Donc, ce n'est pas un brevet considéré par l'inventeur comme étant de haute valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on a vu donc la part des brevets qui sont vraiment à haute valeur, qui sont déposés dans les trois régions du monde. Et là, vous voyez ensuite, bien sûr, ça, c'est le même pattern, une décroissance progressive aux États-Unis, au Japon, et puis une croissance en Asie. Mais encore des relations très, très différentes. Maintenant, voyons un peu ce qui se passe du point de vue de cet investissement en technologie et comment ça se traduit, si vous voulez, du point de vue de la diffusion de cette technologie dans les compagnies, les marchés. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que mondialement, on voit une croissance de ce qu'on appelle knowledge intensive, c'est-à-dire toutes les activités qui ont un contenu d'innovation technologique élevé et qui dépendent d'une connaissance technologique élevée sont en augmentation dans le monde. Et on le mesure depuis 1995, et c'est absolument clair, ça arrive pratiquement au même niveau partout. Donc c'est vraiment une tendance fondamentale de l'économie mondiale, de l'innovation mondiale. On se dirige de plus en plus vers des zones de high technology, high knowledge. Et quand on regarde ça, bien sûr, on a plusieurs catégories. Alors, tout ce qui est knowledge and technology intensive industries, vous voyez la croissance, elle est plus rapide. Ça, ce sont tout ce qui est high-tech manufacturing, c'est-à-dire les avions, les pharmaceutiques, tout ce qui n'est pas service. Et quand on voit commercial knowledge intensive services, ça aussi, ça augmente. Tout ce qui est pratiquement gestion, information system, communication, technology, tout ce qui est software pour tout le système mondial, ça augmente énormément, commercialement, même dans le domaine public, ça augmente. Ça, c'est Wikipédia, et puis si vous aimez Wikileaks, voilà, Wikileaks. Tout ça, c'est très intense maintenant, ça augmente. mais aussi high-tech manufacturing, par contre, n'augmente pas. Donc, si on voit high-tech manufacturing, c'est ce qu'ils font les silicon wafers, les détecteurs de caméras. Par exemple, sur votre téléphone, vous avez un chip qui fait la caméra avec laquelle vous prenez photo. C'est une technologie CMOS, et bien maintenant, c'est devenu commodité mondiale, alors qu'à l'époque, c'était super secret comme technologie. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'augmentation en high-tech manufacturing, mais plutôt dans ce qu'on appelle super high-tech, super knowledge, où on a besoin d'intégrer une capacité manufacturière et une capacité logicielle de gestion. Donc, sur vous, dans les gros systèmes, systèmes de contrôle, systèmes, par exemple, en médecine, tout ce qui est robotique, tout ce qui est high-throughput technologies, des genres de genre où on a besoin des deux. On a besoin du manufacturing et de l'intelligence derrière le manufacturing. C'est là où il y a le plus de croissance. Et quand on voit la valeur ajoutée, alors, vous voyez, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on voit la valeur ajoutée, on la voit associée, en fait, encore au brevet et aux différences et les collaborations internationales. Il y a une relation très, très directe. Alors, bien sûr, les États-Unis avaient commencé plus tôt parce qu'il y avait des politiques d'innovation dont on parlera qui avaient commencé plus tôt, et rattrapage, bien sûr, de l'Union européenne, extraordinaire, mais aussi du reste du monde, et bien sûr, stagnation au Japon. C'est vraiment remarquable, le Japon est plat, et augmentation en Chine, mais pas du tout dans la même qualité de valeur. C'est-à-dire qu'on voit l'apparence de ce genre de technologie en Asie, mais on a l'impression que la valeur ajoutée n'est pas encore réalisée là-bas, elle est réalisée ailleurs, en Europe et aux États-Unis. Ça encore, ça c'est high-tech manufacturing. Alors regardez la croissance de high-tech manufacturing en Chine. Donc il y a encore eu high-tech manufacturing qui a grandi partout, mais ça a diminué au Japon et augmenté en Chine. Transfert en fait de technologie qu'on va voir entre Chine, entre Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. En fait, je vous résume ça, c'est qu'avant, il y avait exportation directe du Japon, du Taïwan et de la Corée du Sud aux États-Unis. Maintenant, c'est plus exportation des technologies en Chine, du Japon, de la Corée du Sud, du Taïwan en Chine et de Chine aux États-Unis. Et on va le voir. Pourquoi ? Parce que c'est le cost of goods. Alors voilà, par exemple, quand on voit computer manufacturing, computer and office manufacturing, et vous voyez l'évolution entre 1995 et 2000. Les États-Unis étaient au top du manufacturing. Le Japon était encore aussi au top du manufacturing. Regardez la décroissance du manufacturing des ordinateurs au Japon. Regardez, par exemple, l'Asie, le reste de l'Asie. Je n'ai pas le détail sur la Corée, mais c'est la même chose. Et la croissance en Chine. Mais ça ne veut pas dire que le Japon a perdu sa capacité de faire des ordinateurs ou que les États-Unis. Non, c'est un transfert global. C'est-à-dire que, comme c'est une commodité, on essaie de diminuer le coût, ce qu'on appelle cost of goods, et on va donc dans le pays où il y a le plus de capacité de faire ça et de manufacturer ces produits sans perdre la valeur ajoutée pour le propriétaire. Donc Toshiba, par exemple, fabrique tous ses ordinateurs en Chine, et ça, c'est la technologie Toshiba, encore. Mais la Chine s'est positionnée pour pouvoir être réceptrice parce qu'elle a investi, comme je vous l'ai montré, dans les années 90, dans le capital humain. Donc, ils n'ont pas le capital technologique, mais ils ont eu le capital humain. Et avec des politiques d'innovation, avec croissance, en fait, dans la recherche et le développement, comme vous l'avez vu. Donc, ça se rejoint. Toutes ces forces-là se rejoignent. Il faut avoir une vue intégrée pour ça. Et ce qui se passe, c'est que la partie puisque c'est la chaire d'innovation technologique, je voulais vous donner un peu un sens de l'importance de l'innovation technologique dans l'économie mondiale. En fait, ça augmente. Il y a un boom et un premium sur l'innovation technologique. Par exemple, 50% de l'activité économique actuelle est due à des avancées d'innovation et des avancées technologiques des dernières 40 années. 50% de l'économie actuelle. C'est-à-dire que si on trace tout ce qu'on a fait pendant 20 000 ans avant ça, ça ne génère que 50% d'activité actuelle. Ce qu'on a généré il y a les 40 dernières années génère 50%. C'est remarquable. C'est une période historique qu'on n'a jamais vue avant, en fait. Et c'est une période historique qui pose énormément de questions du point de vue social et du point de vue politique. Donc voilà, en fait, tout ce qui est en global high-tech, c'est devenu, par exemple, 60% de export shares, c'est relié à ce genre d'État. Et si vous voyez maintenant tout ce qui est high-tech exports, c'est-à-dire les exportations de high-tech, même phénomène, décroissance des exportations aux États-Unis, explosion en Chine, décroissance au Japon, l'Union européenne, flat. Et tout ça, ça reflète en fait des politiques d'innovation dont on parlera au cours de ces leçons et qui ont un effet justement sur ce genre d'impact, non seulement du point de vue scientifique engineering, mais aussi les économistes, les politiques économiques sont très importantes dans ce domaine. Bon, je crois que je suis en train de vous montrer la même chose, c'est-à-dire, bon, ça c'était high-tech exports, ça c'est aussi high-tech exports, ça c'est maintenant communication technology products, les téléphones, le iPhone, le Samsung, la télévision, enfin tout ce qui est communication, vous voyez le même phénomène. Vous voyez par exemple ici, je crois que ça c'est l'Union européenne encore, et les États-Unis, Chine et Japon. Donc transfert en fait avec un essai de compétitivité vis-à-vis des coûts qui va bien sûr s'équilibrer dans les 10-15 années qui viennent. Encore plus remarquable quand on voit le pourcentage des exports high-tech aux États-Unis. Et c'est là une diapo importante parce que ça montre ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que quand on voit les exportations du Japon vers les États-Unis, elles sont tombées. Mais quand on voit les exportations du Japon vers la Chine, elles sont montées. Quand on voit les exportations de Taïwan vers les États-Unis, vous voyez là, Taïwan to United States, collapse. Mais regardez les exportations de Taïwan vers la Chine. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on avait un monde bipolaire, où les exportations, c'est-à-dire l'équilibrage économique se faisait entre Taïwan, la Corée, le Japon et les États-Unis directement. Et maintenant, un troisième player où on exporte du Japon les technologies, les machines, le know-how, c'est fait en Chine et c'est réexporté aux États-Unis à des coûts moindres, ce qui fait que le consommateur aux États-Unis arrive à avoir des produits à des coûts ici en Union européenne. Vous voyez un peu le pattern, hein ? Donc l'innovation technologique se distribue et se redistribue. Et bien sûr, high-tech export, vous voyez exactement la partie de l'exportation chinoise aux États-Unis, enfin dans le reste du monde, qui augmente. Tout ça pour vous dire que les politiques d'innovation technologique ont créé des shifts. Donc je vous ai montré, si vous voulez, tout ce qui était input, c'est-à-dire insertion d'investissement en capital, d'investissement en capital humain, d'investissement en capital humain très, très sélectionné, c'est-à-dire formé à l'université, ensuite des docteurs. Je vous ai montré l'investissement en chercheurs. Vous avez vu la croissance 1,4 qui s'est passée au début des années 2000 jusqu'à maintenant. Je vous ai montré ensuite les politiques, l'effet des politiques de brevets, par exemple, qui ne s'est pas encore établi. Donc on voit une augmentation des inputs, mais on ne voit pas encore les outputs des brevets. Donc ça va, c'est clair que quand on voit ça et qu'on connecte ça maintenant à l'activité économique, on se rend compte que tout ce qui est high-tech, high-knowledge, c'est encore localisé au Japon, en Corée, en Europe. Et ensuite, un rééquilibrage énorme entre l'Asie et les États-Unis et une stabilité européenne du point de vue de ce que j'appelle les outcomes. Donc je vous ai tracé un tableau, j'ai essayé en 45 minutes de vous donner un tableau assez complet, si vous voulez, de l'échelle mondiale. Et donc maintenant, quand on voit à l'intérieur de ce tableau quelle est la distribution et les politiques relatives dans chaque pays, je vais vous montrer maintenant trois diapositives qui vont vous montrer effectivement la différence. Les comparaisons internationales sont importantes à l'échelle globale, il faut les prendre en compte, mais regardez la différence. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la distribution en fait, à l'intérieur d'un pays des efforts de recherche et de développement. Et quand on voit, par exemple, ici aux États-Unis, sur 100%, vous voyez les sciences naturelles, c'est à peu près 25%, Les sciences médicales et biologiques, c'est à peu près le tiers. L'engineering, c'est à peu près 25%. Et social and behavioral sciences, vous les voyez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la balance des investissements en recherche et développement pour l'innovation. D'accord ? Voilà la balance États-Unis. Alors là, maintenant, vous avez tous les autres pays et vous allez pouvoir comparer quelle est, à l'intérieur de ce data, de cette information que je vous ai donnée, quelle est la distribution relative. Alors, vous voyez qu'en Chine, pratiquement 60% sont dans ce qu'on appelle les natural sciences, en dehors de la biologie, de la médecine et de l'engineering. Vous voyez ? La biologie, médecine, biologie énorme, médecine très peu. Et bien sûr, l'engineering qui est en très, très grande augmentation. Regardez l'Inde. Aussi, natural sciences, pas énorme en biologie, mais quand on voit les programmes d'investissement en Chine et en Inde, ils sont pratiquement à 60% dirigés sur la biologie et la médecine biomédicale. Donc, il va y avoir une croissance dans ce domaine-là et une décroissance dans les sciences naturelles. Je vous laisse voir un peu ce qui se passe au Japon, où il y a un engineering qui est beaucoup plus représenté que dans notre pays. Et si je peux, regardez la Pologne. Encore, la Pologne est la marque de ce qu'on appelle le Soviet Union style d'économie planifiée. Et en fait, j'en avais parlé dans la leçon inaugurale, j'en ai juste passé un point. Il faut bien vous rendre compte qu'il y a une tension fondamentale dans toutes les politiques internationales entre décisions centralisées et systèmes décentralisés. Systèmes centralisés sont en général guidés par des investissements publics, où c'est l'État qui détermine en fait les distributions. Et en général, il y a une préférence dans ces investissements-là pour avoir un retour économique rapide. Donc ce qu'on voit, c'est en fait très peu de biologie, très peu de santé, parce que l'innovation médicale est considérée par les économistes comme quelque chose qui coûte de l'argent, qui ne rapporte pas d'argent. C'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui ne vit pas trop longtemps, qui meurt vite. C'est bon pour les économistes. Je rigole. Mais c'est en fait le fait que dans les économies centralisées, il n'y a pas de demande de bas en haut, donc on dirige l'économie plutôt vers les sciences naturelles, l'engineering. Ce qu'on voit souvent voilà, dans les pays, les anciens pays de l'Union soviétique, la France beaucoup plus balancée, vous voyez la balance française, l'Allemagne, un peu plus d'engineering, et vous voyez, regardez le United Kingdom, par exemple, beaucoup plus en biologie et qu'en engineering ou en sciences, Netherlands, bon. Et regardez la Russie. Vous voyez ce que je veux dire, le pattern de plus un système est décentralisé, plus il y a une distribution un peu homogène. Plus un système est centralisé, plus il y a des distributions anormales. Je ne sais pas si... vous voyez un peu la distribution en Australie, en Turquie. Quand on n'a pas d'académie des sciences qui contrôle le ministère de l'économie ou le ministère de la science qui contrôle tout, on a une distribution un peu plus homogène. C'est la loi que je partage avec vous, c'est ma loi, c'est mon observation, elle n'est pas du tout scientifique, mais c'est un peu ce qu'on voit un peu partout dans le monde, quand on circule dans le monde, on se rend compte qu'en fait, c'est la distribution qu'on voit. Eh bien, donc, c'était un peu la lecture actuelle, je voudrais peut-être avoir une conversation avec vous. Donc, en résumé, quand on voit l'insertion des ressources en recherche et développement à l'échelle globale, elle est en augmentation réelle. On passe de 78 millions d'individus qui sont capables d'être actifs dans le domaine à 200 millions dans les 15 années qui sont passées. On passe de 400-500 milliards à 1,2 milliard, donc deux fois et demi l'augmentation. On a des taux de croissance qui ne sont pas négatifs, qui sont positifs dans tous les pays. Ça va de 5% aux États-Unis à 23% en Chine. Nous avons des taux de formation de capital humain qui sont en augmentation dans chaque pays. Il n'y a pas un pays où on a une diminution du nombre d'étudiants, du nombre d'étudiants en sciences naturelles, du nombre de docteurs. Nous avons une augmentation à peu près générale, mais beaucoup plus rapide en Asie, du nombre de chercheurs. Une augmentation remarquable du nombre de publications avec un équilibre pratiquement un tiers, un tiers, un tiers. Les États-Unis, Europe, Asie, reste du monde à peu près 10%. 30, 30, 30 et 10, croissance en fait dans des régions comme l'Amérique du Sud, surtout le Brésil, l'Afrique du Sud en croissance. Donc on remarque qu'il y a quand même une expansion globale. Du point de vue de la part de l'économie mondiale, donc du outcome qui se passe, on remarque encore que les brevets donc à haute valeur, sont encore prédominamment des brevets d'origine US-Europe, mais avec une croissance en Asie qui continue, US-Europe-Japon. Hein. Du point de vue de l'impact économique, croissance sur l'économie de produits qui viennent d'innovations qui se sont passées il y a 20-30 ans, qui sont en train d'être réalisées maintenant sur le marché, avec une proportion très très importante de toute l'activité économique reliée à des innovations qui se sont passées les dernières 40 années. Et une distribution inégale, avec des balances inégales, qui reflètent en fait la diversité des politiques, la diversité des sociétés dans le monde, comme je vous l'ai montré dans les dernières diapositives. J'espère que ça vous donne une vue d'ensemble un peu globale qui permettra d'ancrer en fait toutes les conversations successives. Merci.